moment même, aujourd'hui même, l'Europe est en train de voter aussi. Enfin, on va voir, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une soirée chaude sur ces questions-là. Un amendement qui fait qu'il serait interdit en Europe de couper l'accès à Internet. Donc ça rendrait cette loi caduque, mais il n'empêche que même si on ne nous coupe pas l'accès à Internet, cette loi est très particulière dans la mesure où on n'est pas présumé innocent, mais on est coupable et il faut prouver son innocence, ce qui n'est pas un classique dans la loi française. Et donc pour pouvoir prouver son innocence, il va falloir acheter nous-mêmes un petit logiciel, un mouchard de flicage qu'on met sur notre ordinateur pour bien montrer, grâce à ce logiciel, que nous n'avons pas téléchargé de documents illégaux. Je vous fais pas dans le détail, mais c'est très facilement contournable techniquement. Donc déjà, ça veut rien dire. Deuxièmement, ça ne prend absolument pas en compte les pratiques actuelles de création, qui sont de l'ordre du lecture-écriture plutôt que de la consommation passive. Troisièmement, quand on parle d'artistes, quand notre ministre parle d'artistes, elle ne parle essentiellement que des artistes signés. Finalement, on peut dire que cette protection des artistes, il y a un très très bon article de Laurent Schelma qui le dit très bien. Ce n'est pas tant une protection des artistes, mais le droit d'auteur, ça a été mis pour protéger les éditeurs. Ça a été inventé pour protéger les éditeurs et les artistes reçoivent qu'une partie infime du profit généré par leurs travaux. Donc c'est vraiment une vaste farce et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a véritablement des outils de contrôle qui vont être mis en place de manière voilà, qui sont en train d'être votés. Et si nos quelques héroïques députés ont réussi à faire en sorte que le vote a sauté par un petit coup de théâtre, là ils sont en train de le revoter, je pense, parce que c'est une question de chiffres et on a plus d'élus UMP. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je trouve le temps relativement, le moment historique est relativement inquiétant. Voilà, donc ça c'est ce qui me préoccupe. Et donc comment faire par rapport à ça? Et dans ce sujet que tu as posé, j'ai trouvé un point de jonction qui est une citation de Haraway qui dit: les limites entre la science-fiction et la réalité ne sont qu'une illusion d'optique. Donc ça dépend comment on regarde, mais voilà. Mais c'est bien ça qui se passe. Et
Ma
donc,
maman me disait toujours que les monstres
n'existaient
n'existent
pas.
pas. Mais ils existent, ils sont dans mon ordinateur.
Absolument. Pas seulement. Voilà. Et donc, je suis allée rechercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous aider à penser, si c'est nous forcer. Et donc, je suis revenu à cet auteur qui avait parlé de Alien, qui a parlé de science-fiction, qui est donc Donna Haraway, d'autant plus qu'il y a une activité autour de ces textes qui sont traduits et retraduits. Je crois qu'on est à la cinquième traduction maintenant du Cyborg Manifest. Ça aurait été heureux de le faire collectivement, mais c'est apparemment impossible en France de travailler collectivement. Et bon, donc voilà. Et donc, je suis allée rechercher un vieux travail que j'avais fait avec elle en 1987, et dans lequel je lui avais demandé d'exposer un peu sa méthodologie. Et on va voir comment elle nous parle de la relation entre humain, animal, machine. Et comment ces relations sont des histoires de frontières qui sont déplacées. Et ce film, je tiens à ce film, ce document vidéo qui était en VHS, et je m'excuse pour tout le tracas que j'ai fait parce que j'ai ressorti une vieillerie archéologique qui n'existe plus. J'ai réussi à le transcrire en document AVI, mais la qualité est catastrophique. Donc c'est un petit document archéologique que vous allez voir qui est très très abîmé. Et puis un jour on arrivera peut-être à faire une restauration de ce travail, mais là pour l'instant ce que vous allez voir c'est une trace. Et il faut que j'explique qui est Donard. Oui, absolument, absolument. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Donna Haraway est une biologiste, historienne des sciences, féministe et critique culturelle. Et son travail a été particulièrement important, précisément dans la manière dont elle a repensé un petit peu la relation homme-machine et la relation animal-humain. Et comment elle montre la manière que l'on a de codifier ces relations. Et tout son travail, ça va être un travail de décodage de la culture populaire, mais pas seulement, et des métaphores. Et on en a une belle série de déroulés tout à l'heure, et des métaphores qui nous construisent et qui construisent la culture dans laquelle nous sommes. Et voilà, donc, ok. Donc, c'est une bande qui a été faite pour un programme qui s'appelle Paper Tiger Television. Et ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que c'était un programme qui remettait en cause la notion d'expert, qui adressait son analyse sur un objet médiatique. Alors ça pouvait être un journal, une émission de télévision. Là, c'est Donna Haraway qui va nous parler du National Geographic, vous savez, ce petit journal, qui passait sur les chaînes d'accès public. Alors les chaînes d'accès public, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France, même s'il y a eu des tentatives un petit peu en France, mais ça n'a jamais eu l'importance que ça a eu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'afin de pouvoir avoir le monopole du développement du câble, il a été acquis qu'une de ces chaînes soit pour l'utilisation du public. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu des activistes des médias qui se sont battus pour pouvoir ouvrir ces chaînes. En France, je parle d'avant Internet, si vous vouliez prendre la parole, en gros... c'était des systèmes hérités du cinéma documentaire ou des débuts de la vidéo, vidéo brouette, etc., avec des projections ponctuelles. Mais il n'y avait pas de prise en main, enfin de possibilité d'accéder à la diffusion en broadcast de la télévision, enfin d'utiliser la télévision. Or, il me semble important de pouvoir avoir une prise de parole à la télévision aussi, qui n'est pas nécessairement une télévision que l'on consomme, mais qui est aussi une télévision que l'on produit. Et d'avoir cette relation producteur, lecteur, consommateur, mais en tout cas lecteur, qui puisse interchanger. Aujourd'hui, c'est une attitude qu'on connaît très bien, puisque avec Internet, on est instantanément diffuseur d'informations, tout autant que consommateur d'informations. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est cette possibilité de faire du remixing, du sampling, et de prendre des parties pour pouvoir prendre la parole à partir de samples. Et c'est pour ça que cette loi est d'autant plus terrible, parce que c'est notre manière de parler. Aujourd'hui, on parle à partir de samples. On est dans l'intertextualité visible, je dirais. On voit les fermetures éclairs des morceaux que l'on va chercher. Donc, de ne pas nous permettre de pouvoir utiliser ces fragments de culture qui nous saturent et à qui on n'a rien demandé, mais qui nous saturent néanmoins, c'est assez terrible, quoi. C'est une manière de nous ramener à un état dans lequel on ne peut plus être ramené. C'est ça qui est fou. Donc, je ne pense pas que ça puisse être appliqué, ce qui va se passer. Mais il n'empêche que le mouchard, il va être là. Et donc, ces chaînes d'accès public étaient utilisées par tout le monde. Il y avait quelques limitations. On ne pouvait pas faire de la propagande politique, on ne pouvait pas faire du commerce, on ne pouvait pas faire de pornographie. Alors, c'est très bizarre parce que la pornographie, ce n'est pas bien la même chose à San Francisco que, on va dire, dans une ville mormone. Hein, on ne pense pas. Bon. Donc ça, c'est des limites qui sont un peu floues, mais en tous les cas, il y avait un accès ouvert à tous, et ça a été des lieux de formation média absolument phénoménal, puisque tout citoyen pouvait y aller, avoir accès à des machines, pouvait avoir accès à une formation et pouvoir commencer à produire leurs propres vidéos et à les diffuser sur la base du premier venu, premier servi. Et donc, sur ce type de chaîne, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de... Mais il y a certaines personnes qui arrivent à s'en emparer. Et notamment, Paper Tigers, me semble-t-il, a été un groupe exemplaire dans ce sens-là. Et même si ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas l'image officielle de Paper Tiger. Mais en gros, l'idée, c'était d'arriver à avoir une image radicalement différente de ce que l'on voit d'habitude à la télévision, afin que lorsque l'on zappe, on se pose la question 30 secondes et on se dise qu'est-ce que je suis en train de regarder là, ça a un look différent. Donc juste le temps de reconnaître et de comprendre d'où ça vient, qui parle, comment ça parle, etc. Et donc il y avait des gens qui traversaient et qui prenaient en charge un objet culturel, et ici c'était Donna Haraway qui prenait en charge le National Geographic. Et ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que justement elle pose ce que est elle fait une démonstration, pour moi c'est une démo d'une bonne critique culturelle sur les questions justement de animal, machine et humain. Alors, étant donné que c'est en anglais, je voudrais savoir s'il y en a qui captent rien du tout. Ok ? Ceci n'est pas un problème, j'ai pensé à vous et j'ai fait des petites traductions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un peu de quoi ça parle et puis je vais laisser filer. Et c'est pour ça que c'était une très bonne chose que je l'ai en AVI. Comme ça, je peux contrôler. Enfin, presque. Et encore une fois, je suis désolé pour la qualité, mais ça fait partie du bonheur de l'archéologie des médias. Donc là, elle nous explique un petit peu la méthode qui est de prendre... ce que je trouve assez heureux dans cette attitude, c'est que c'est vraiment homemade, fait à la maison. C'est comme quand on fait des gâteaux, quoi. Et donc, elle prend une pelote de laine tout en mêlée et elle dit véritablement, la critique culturelle, c'est d'arriver à prendre un des fils de cette pelote complètement emmêlée et de suivre le fil, de voir, et de dénouer les fils et de dénouer les nœuds de la culture.
Balls of yarn, and that one way to approach the situation is to pull on a thread and begin to untangle the ball of meanings, and begin to trace through one thread and then another what gets to count as nature, for whom and when, and how much it costs to produce nature at a particular moment in history. For a particular group of people. What gets to count as nature?
Donc, combien ça coûte de produire de la nature à un moment donné de l'histoire pour un groupe précis de personnes?
In history, for a particular group of people. For a particular group of people. For a particular group of people.
Donc là, on est tout de suite dans un de ces thèmes récurrents qui est que l'on ne parle pas de manière universelle, mais qu'on parle d'un point de vue situé. Et tout son travail de déconstruction va être justement de quelle nature on parle, de quel est ce moment historique et quelle est cette culture qui a produit ce que ils appellent nature.
For a particular group of people. For a particular group of people. And another way to imagine the same situation is to take a layer cake, Pepperidge Farm layer cake, formerly boycotted because of the Nestle bottle feeding scandal.
Ok, donc ça, une autre manière de penser ce problème, c'est de prendre un gâteau qui a des couches successives. Et elle fait une parenthèse insensée, mais ça c'est... Et elle dit, mais alors, donc ça, ce gâteau, il vient de, je ne me rappelle plus quelle marque, mais qui fait partie du consortium Nestlé et qui a été évidemment boycotté à cause de la manière dont ils ont substitué le lait maternel pour leur lait industriel et qui a été donc un scandale.
To take a layer cake and cut into history as if it were a layer cake. And begin to unpack the layers of meanings.
Et donc, on va couper le gâteau et on va commencer à défaire les niveaux de sens.
Unpack the layers of meanings of all of the
les strates de sédiments,
and all of the problems
de tous les plaisirs et de tous
that these layers of meanings
les problèmes
produce
que ces strates produisent.
So let's go back to Penny Patterson and Coke.
Okay. Ce que je trouve à peu près divin dans cette histoire, c'est qu'on a affaire à une très grande féministe et que bah, c'est comme à la maison, quoi. Et donc, là, je vous prends en cours de route ce dont elle va parler, c'est du singe Coco, que vous avez peut-être en mémoire, qui était ce singe qui avait été... étudié et apprivoisé par une scientifique qui s'appelait Penny Patterson et qui a été un des premiers moments où on a essayé de voir comment on pouvait parler à travers les espèces.
Problem of the talking gorillas and the talking chimpanzees in the first world in this mythic time called the late 20th century.
Donc le chimpanzé qui parle dans ces temps mythiques de la fin du XXe siècle dans le premier monde.
And let's do it by looking at some covers of the National Geographic magazine that presented Coco to an American public in the 1970s.
Donc elle va prendre la couverture de National Geographic comme outil de déconstruction culturelle. Et la première, on voit Coco qui est en train de prendre sa propre photo, de se faire un autoportrait.
The National Geographic magazine we see is Coco the gorilla taking a picture of herself in the mirror with a Japanese camera. And what we see is the gorilla with the attribute of self-reflection.
Donc ce qu'on voit, c'est un gorille qui est en train de prendre une photo de lui-même avec un appareil de photo japonais. Et on voit donc un animal avec les attributs de l'auto-réflexion.
Self-vision. The gorilla with a Japanese tourist camera sees herself in the mirror and takes her own picture. She's in charge of her own image. She represents universal man.
Donc, et elle est en charge de sa propre image. Elle représente en cela l'homme universel.
The next picture we see in the National Geographic magazine is Coco the gorilla with the kitten in her arms. Coco herself with a pet.
La deuxième image, c'est Coco avec un animal domestique, avec un chaton.
Coco again is universal man who names the animals.
Et qui nomme cet animal.
Wonderful story associated with Coco and the kitten. The kitten's name is All Ball, named by Coco as her own pet, as her own pet companion.
Il a été nommé donc Coco had par Coco, ce chaton, Old Brawl.
She asked Penny for a kitten for several months and had always been turned down by her human companion, Penny Patterson, on the grounds basically that she wouldn't take care of her pet, that she might be...
Et ça faisait longtemps que Coco voulait un animal de compagnie, mais on lui a toujours refusé sur la même base que l'on refuse un animal de compagnie à un jeune enfant de classe moyenne. C'est-à-dire que tu ne sauras pas t'en occuper, de toute manière, il va faire des saletés, tu ne le laveras pas, blablabla.
Rough with her, she wouldn't feed her, she wouldn't clean up after her, the kitten would probably be abused, the same grounds that other kids in the Silicon Valley are refused pets. So when the kitten All Ball wanders into Coco's trailer in the Los Altos Hills, and Coco adopts the kitten, we learn several things. We learn first of all that this...
Donc quand le chat arrive dans l'endroit où est Coco et que Coco l'adopte, on apprend plusieurs choses.
This is a kitten who was suckled by a dog. That this is a kitten who is already on the boundaries of species meanings.
Alors, juste pour en rajouter une couche, c'est un chaton qui a été élevé par un chien, parce que c'est un chaton errant, et donc...
And this ambiguous boundary animal kitten wanders...
Donc c'est donc un chaton qui est sur une frontière de l'espèce qui est déjà pas très claire.
...into Coco's world is taken up by Coco and named, as Adam names the animals in the Garden of Eden.
Et de la même manière que Adam a nommé les animaux dans le jardin d'Éden, Coco nommera son chaton.
Once again, Coco is typed as universal man in the setting of the Silicon Valley in the Los Altos Hills. The next image of Coco that we see is Coco looking at herself in the mirror and looking at a book of the three little kittens who lost their mittens. And Coco is...
La troisième image, c'est on voit Coco qui à la fois se regarde dans un miroir et qui regarde un livre d'enfant dans lequel il y a trois chatons qui ont perdu leurs gants.
Signing, naughty, naughty.
Et Coco
and
dit, non, 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 c'est très, très mal, ça, ce sont des mauvais enfants.
Things about Coco as she reads her childhood book with the animal characters, the three little kittens who lost their mittens. We learn first that Coco engages in moral discourse, that she knows the difference between good behavior and naughty behavior.
Donc on comprend à travers ça, c'est que Coco a un discours, produit un discours moral entre les bonnes et les mauvaises conduites.
And that the other animals represent themselves to Coco just as they do to human children.
Et que les animaux en fait sont qu'ils se représentent les animaux de la même manière que les humains se représentent les animaux. Donc là, on est dans une espèce de brouillage humain-animal et de limites traversées et d'échanges étonnants.
Coco reads the book of nature as a question of natural and sacred history that Coco engages in moral discourse and again has the signs of universal man. And so we have two of the strands, self-reflection, naming the animals, and the third sign, moral discourse.
Et Coco, en fait, porte tous les signes de l'homme, enfin plusieurs signes de l'homme universel, l'autoréflexion, le fait de nommer les animaux et le fait d'avoir un discours moral sur ce qui se passe.
American Sign Language is a human language. Disabled people who speak American Sign Language, who communicate with this language, have pointed out the power relationships in which that language is situated at the boundary between nature and culture, so that the traffic across nature and culture for late 20th century first world people in the United States is mediated through a language of the disabled. And
OK, et donc Coco parle avec le langage des signes, et le langage des signes a été souvent dénoncé, c'est pas le mot qu'elle utilise, comme un langage qui est à la limite entre la nature et la culture, et qui a un trafic continu qui se passe par ce langage entre la nature et la culture, et que c'est ce langage qui est utilisé par le gorille.
So that the markings of universal man in turn are mediated through an animal, a primate, Coco, who signifies not a female adolescent gorilla or a particular animal at a particular place in a particular history, but rather the animal represents universal man.
Et donc plutôt que de signifier un gorille femelle adolescent, il représente là, dans ce travail scientifique, l'homme universel. To be animal, to be animal, could you
justify your reason? Okay, can you tell me about what you see?
Tu peux me dire ce que tu vois?
Can you tell me a little about that? What do you see? Margie, trouble! Wait a minute. I've got to see if there's someone in here that looks like Margie. Just a minute.
Well, there's a monkey swimming on this one. Just be patient. Be patient. I have to look. Anyone? Well, there's a girl that looks like Margie.
Donc c'est absolument étonnant cette utilisation du langage des signes pour pouvoir parler à un animal qui.
Yes, there's a girl feeding a monkey, and she looks a bit like Margie.
So what do we do with the gorilla who has the sign of the book, the camera, naming the animals? The gorilla who says, fine animal gorilla, when she's asked if she's an animal or a person, who is this universal man who is separated from every history? Well, first of all, Coco the gorilla is born in the San Francisco Zoo. How does she come to...
Donc, là, elle revient sur l'image et elle fait le chemin inverse. Elle dit, qui c'est cet homme universel qui, en fait, est hors de l'histoire? Et elle revient et elle nous rappelle qu'en fait, il est né dans un zoo... qu'il a pu aller dans la Silicon Valley parce que il avait la nécessité de pouvoir, pour pouvoir sortir du zoo, il fallait qu'il puisse se reproduire. Et donc Penny Patterson a mis en place un système par lequel Coco rencontrerait un autre animal qui leur permettrait la reproduction. Et on a d'un côté un animal qui sort d'un zoo, qui va dans un laboratoire à Silicon Valley, que l'on fait reproduire avec un animal qui est sauvage, qu'on fait venir d'Afrique, pour se reproduire à l'intérieur d'un laboratoire de la Silicon Valley.
One of the first things to remember is that zoos are able to have these endangered animals only if they somehow get themselves involved in helping these animals to reproduce. In the reproductive politics that are part of conservation politics. So the mayor of San Francisco, the politicians of San Francisco, people who speak for science, people who speak for nature, get involved in liberating Coco the gorilla from the zoo where she is spectacle to Santa Clara Valley, to the Silicon Valley, where she's a companion to Penny Patterson, speaking American Sign Language and representing man, only if Penny Patterson can also show that this speaking gorilla, who shouldn't be spectacle because she speaks, will also reproduce. So Penny Patterson and her allies buy Michael, another gorilla kidnapped from the wild, who is also taught American Sign Language, and who is kept as a consort for Penny, that she would grow up and have a speaking consort, be removed from spectacle in the San Francisco Zoo, and in a speaking reproductive politics, reproduce in the arena of science.
Ok. Le deuxième exemple, donc là, ce dont elle parle, c'est ce trafic constant qui se passe entre la nature et la culture à travers une pratique dite scientifique.
Patterson and Coco's story to another scene of the traffic across nature and culture. This time, let's look in Indonesia, and let's look at another cover of the National Geographic magazine, this time with Berute Galdikas and two orangutan orphans clinging to the maternal body of science-coded female.
Donc là, on a une autre histoire qui vient d'Indonésie, et c'est une autre couverture du National Geographic dans laquelle on a deux orangs-outans qui sont accrochés à un corps scientifique codé femme, femelle plus exactement, et qui va leur apprendre à redevenir sauvage. Donc c'est le phénomène inverse.
We have in this situation a scientist, Berute Galdikas, teaching kidnapped infants from the wild how to be wild. These are infants who were taught by the human being to return to nature. And if we look at the other picture, we see Berute Galdikas' son, Binti, in a plastic bathtub with one of the orangutan orphans, Princess, taking a bath together. And in the story between Binti and Princess, we learn that the orangutan princess teaches the human child, Binti, his first human word in American Sign Language.
Donc, on a une autre image, une autre couverture dans laquelle il y a l'enfant de la scientifique qui prend un bain avec le jeune orang-outan, et ce que raconte l'histoire, c'est que l'orang-outan apprend au jeune enfant humain son premier mot en langage des signes. Donc c'est l'orang-outan qui apprend à l'enfant humain le premier mot en langage des signes.
While Binti's natural mother is teaching Princess how to be wild.
Alors que la mère de l'enfant humain apprend à l'orang-outan comment être sauvage.
So learn that Brutus Galdikas's favorite orangutan rehabilitant or orphan, Sujito, has at adolescence fallen in love with Brutus Galdikas and needs to be relocated in the forest, far distant from the scene of the rehabilitation of the orphans, lest his out of control libidinal love for his mother, his illegitimate and incompletely phallically, Oedipally reorganized love for his mother, interfere with the traffic across nature and culture.
Okay. Et après, elle
culture abound. For example, we have here
plusieurs images de la culture américaine. Ça, c'est une photo de Diane Arbus dans laquelle on voit un couple mixte qui a des singes dans, alors je ne sais pas exactement quel type de singe, dans les bras.
In a narrative history of the portrait in photography, a family, a middle class American family at the zoo for an afternoon. The family consists of a white blonde woman, a black man, two chimpanzee children, and a human child of ambiguous ethnic identity. This is the kind of species racial recoding that we find in modern American culture.
Donc ça, c'est le type de recodage sur les espèces et que l'on trouve aujourd'hui dans la culture américaine.
We have also a greeting card of this strange 1950s television family, the unmarried couple, Tarzan and Jane. They're
Tarzan and Jane, le couple non marié.
The child, boy, and their strange chimpanzee daughter. We have this
avec leurs enfants garçons et cette étrange chimpanzé fille.
Family that exists at the boundary between nature and culture, and we need to ask why these boundary objects and why this particular moment in history.
Donc on a ces objets frontières et il faut se demander pourquoi est-ce que ces objets frontières arrivent à ce moment donné de l'histoire et qu'est-ce que ça raconte.
This particular moment in history deals with two particularly important world-changing events. One of them is decolonization and the achievement of national independence all over the Third World, and the second is multinationalism and the reorganization of nature in a multinational system of production in the post-World War II moment.
Donc ce qu'elle dit, c'est que pourquoi à ce moment précis de l'histoire, en fait on est au moment de la décolonisation et de l'indépendance nationale dans le tiers-monde, d'une part. Et deuxièmement, c'est le capitalisme transnational avec la mise en place des multinationales qui réorganise ce que la nature veut dire dans le capitalisme transnational.
Race, sex and class are recoded on the boundaries between nature and culture.
Donc la race, le sexe et la classe sont recodés sur les limites entre la nature et la culture.
So let's leave the Los Altos Hills, the Silicon Valley, the San Francisco Zoo. Let's leave these first world spaces where Penny and Coco engaged in a narrative about universal man, surrogacy and rehabilitation. And let's go to a strange mythic space called the wilds of Tanzania.
Et après, elle fait tout un développement sur Jane Goodall, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est allée dans la Tanzanie sauvage exactement au moment où les Belges partaient du Congo, dit Congo belge, et comment cette mise en place a été faite, qui la finance, comment ça la finance. Et je voudrais arriver directement, voilà, Jane Goodall, toute seule sur la montagne, mais qui mange quand même une boîte de porc et de pork and beans, haricots. Ok, et la deuxième partie, c'est la deuxième de relation, c'est la relation entre l'humain et la machine.
Cyborgs for earthly survival is the pin that I've got on. I'm wearing a t-shirt that comes from the Nevada test site action in May 1987. The Nevada test site action t-shirt has a view of the planet Earth, spaceship Earth, which is the view from the space race. It's a view of the world that's only possible in view of the Cold War and the space race. And yet.
Donc le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt qui a été édité au moment où il y avait une action pacifique dans le désert pour récupérer des terres des Indiens Shoshone, pour que les Indiens Shoshone puissent récupérer les terres dans le désert du Nevada, qui ont été aussi les terres dans lesquelles ont été faits les tests nucléaires américains.
It's been an image that's appropriated for Love Your Mother. It's an image that's appropriated for an anti-nuclear action, an action that affirms the Western Shoshone possession of the land that the federal government has invaded for its nuclear weapons test site. It's an image that tells us about our status as cyborgs and that tells us about the point of view from an extraterrestrial position.
Mais c'est aussi une image qui marque notre statut de cyborg et notre point de vue extraterrestre, mais hors de la Terre, dans la mesure où cette image ne peut exister qu'à partir du moment où il y a la guerre froide, où il y a des satellites et des Sputniks qui se mettent en place et qui peuvent produire cette image.
As the science of the Jane Goodall story is coded female, the science of the space race is coded male.
Et de la même manière que la science autour des chimpanzés est codée femelle, et on a des femmes scientifiques, la science autour de de ce qui se passe dans l'espace est codée mâle.
This is a place where the body is turned into an information processing device, is turned into a mechanism for generating streams of data. The body.
Et donc c'est le lieu dans lequel le corps est un corps qui produit des données, en boucle et un flux infini de données.
The body is part of the loop with the machine. We're both communications devices. Like the Jane Goodall story, this also is about touch, communication, information, the perfect reunion of the parts of the world in the post-World War II order.
Et de la même manière que l'histoire de Jane Goodall et des femmes scientifiques qui travaillent avec les chimpanzés, ce à quoi on a affaire, c'est des questions de toucher, de contact, de communication et de réunification.
This is a narrative that works between human or among human, animal and machine. This is a narrative that makes the boundary between the human being and the machine particularly ambiguous.
Et donc ce sont des relations qui mettent en place les humains et les machines dans des relations particulièrement ambiguës. Et elle va nous parler du premier singe qui a été envoyé dans l'espace.
First American to space.
C'est le premier Américain dans l'espace.
He's an immigrant to the United States. He's an Afro-American.
C'est un Afro-Américain.
Race is coded back onto the body of the animal.
Et la question de la race est recodée sur le corps de l'animal.
And like the Afro-Americans held in subhuman status in slavery,
Et comme tout Afro-Américain, comme tout Afro-Américain est arrivé comme esclave, il est captif, sorti de l'Afrique, mais ici envoyé dans l'espace.
The first American in space is a captive, brought here against his will, captured violently out of Africa, and put into the space race as a particularly interesting kind of character who embodies the breakdown of the boundary between organism and machine. But the chimpanzee Ham got his name Ham only after his successful space flight into suborbital flight. He, unlike John Glenn, didn't make it into completely orbital flight, but only that phallic parabola of suborbital flight.
Donc, il n'a eu son nom simplement qu'après la mission et qu'une fois la mission réussie, parce qu'autrement, ça aurait été juste un numéro après, parmi d'autres.
Ham got his name when he got back. Lest, had the mission been unsuccessful, he had been, their word not mine, aborted.
Had the mission been aborted, Ham would have had no name. Ham would have been number 65. Though he was familiarly referred to by his trainers, we learn, as Chop Chop Chang, the stunning racism coded onto the body of the animal in first world culture.
Mais avant qu'on l'appelle Ham, on l'appelait Chop Chop Chang, ce qui marque encore une fois la manière dont le racisme de scientifique s'applique sur la manière de nommer cet animal.
Ham is embodied in a particularly interesting dynamic of the crisis of masculinism in the early 1960s in the space race, where the right stuff of the jet airplane test pilot is challenged by the machinery of the space race and the sufficiency of the animal as...
Okay, et ce qu'elle dit là, c'est qu'on en arrive à un moment de crise de la masculinité dans lequel l'ultime masculinité qui était représentée par les pilotes qui testaient les machines sont devancés par les machines elles-mêmes et on remplace le pilote de test d'avion par un chimpanzé, ce qui est quand même qui met la masculinité en crise quelque part.
For man in space. And man himself is a media star, is John Glenn in front of the camera, is astronaut White in front of the camera with the American flag coded onto his spacesuit and the blank screen of his face looking at us from 1965 Life magazine. Ham, number 65, Chop Chop Chang. Ham, youngest son of Noah, the only black son of Noah.
Ham, c'était aussi le plus jeune des fils de Noé et le seul fils noir de Noé.
But that wasn't what they meant. They meant Holloman
Aramedical. C'est pas pour ça qu'il a été nommé Ham.
Ham's name is an acronym of the space race and weapons testing.
Mais en fait, c'est un acronyme de la course dans l'espace pour accéder à l'espace et de la guerre froide.
Ham is a cyborg whose body has been turned into the source of endless streams of data.
Ham est un cyborg dans lequel son corps devient un flux de données sans fin.
Has your data been saved? Forget the grammar. Cyborgs for earthly survival. Ham is part of the loop of machine, man, and animal in which the body is turned into an endlessly coded stream of data, in which the body and the sciences which know it are inscription devices in the text of culture.
Okay, dans lequel le corps devient un lieu d'inscription. Attends, je la refais parce que je l'ai pas traduite.
Cyborgs for earthly survival. Ham is part of the loop of machine, man, and animal.
Donc c'est la boucle de la machine, de l'homme et de l'animal.
Which the body is turned into an endlessly coded stream of data, in which the body and the sciences which know it are inscription devices.
Le corps et la science qui le construisent sont des outils d'inscription.
In the text of culture.
Dans le texte de la culture. Ok, et je vais arrêter là. La seule chose que j'espérais pouvoir faire à travers cette courte présentation, c'est de montrer à quel point les histoires culturelles qui construisent la science sont en fait des histoires culturelles qui ont, si on va chercher dans la précision de ces histoires, si on va véritablement chercher ces histoires, sont extrêmement codées. À travers, ici, elle nous l'a montré, les questions de race, de classe et de sexe. Et je crois que quelque part, ça parle, je ne sais pas si ça rejoint, mais en tout cas, ça parle à la présentation qui a été faite tout à l'heure, dans laquelle, effectivement, on est toujours à la frontière entre l'homme et l'animal et comment ça se joue.
Marika, tu voulais peut-être intervenir, rebondir sur ce que tu viens de voir à propos de Haraway. Déjà, rejoins-nous.
Oui. Oui, il y a le complément, effectivement, de... Dans les films de science-fiction que j'ai montrés, c'est la machine qui produit elle-même les films qui est la partie machine. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de machines, puisque c'était... Tout ce qui concerne la biotechnologie est beaucoup plus invisibilisé que quand il s'agit effectivement de ce dont elle parle. Mais comme ça, non, j'ai pas.
Non, mais c'est difficile. La seule chose, enfin, c'est difficile, mais la seule chose que je voulais montrer, c'est un peu la méthode de déconstruction à travers une analyse. Voir comment le code s'inscrit dans le discours scientifique et comment en fait il y a des relations de force qui sont établies entre les sur avec les lignes race, classe et sexe dans ce code, dans le discours de la science.
Mais moi j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut nous dire. Ah ouais, là j'ai l'impression qu'elle le recode elle-même en étant elle-même située par rapport à ce singe. Moi je suis pas sûr de voir qu'il y ait une seule interprétation possible. En fait, elle nous explique effectivement qu'il y a des codes qui sont là, mais elle les recode elle-même par derrière. Enfin, il y a des superpositions.
Oui,
donc on est d'accord là-dessus.
Oui, je pense, okay. je pense pas qu'elle a un discours autoritaire. Je pense qu'elle a toujours eu un discours ambigu.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas particulièrement. Enfin, moi, j'avais pas grand-chose à dire, à part que c'est toujours un bonheur de voir le clip show de Marika. Je pense que c'est important d'avoir des lectures et des relectures des films de la culture populaire, justement, qui croisent plein de questions, parce qu'on pourrait, on pourrait aussi travailler sur une lecture trans des films d'aliens, justement, sur la prison qui est XYY, alors est-ce que c'est des intersexes, est-ce que c'est... On est en train de dire que la criminalité est biologique ou biologisante, voire innée. Toutes ces possibilités de lecture disent des choses. Maintenant, après, ce que je trouve intéressant, notamment dans ce type de cinéma, de science-fiction ou même de blockbuster, qu'il y a vraiment un travail derrière des scénaristes. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une signification très précise de ce qu'ils veulent dire, notamment dans Alien?
Je suis sûre, je ne suis pas sûre que ce soit, enfin que tout soit... D'abord, moi j'ai un biais, donc c'est un vrai biais qui est que je cherchais à repérer les images de la propagation chez nous, enfin la construction des images qu'on fait. Et ça faisait quand même un certain temps à cause de cette double formation, et que d'un côté, donc il y avait cette tentative vraiment faite par la science, en dépit de ce que disent, de ce qu'on dit à un moment donné, c'est plus le cas d'un certain nombre d'entre elles, des féministes, de symétriser les rôles sexuels pour prouver que les hommes avaient vraiment un rôle. Il fallait vraiment montrer que le rôle des hommes était équivalent. Donc on a vraiment la déconstruit de façon à montrer qu'il y a XY, on a testicules, ovaires, on a pénis, vagin, etc. Le problème, c'est effectivement l'utérus fait des ordres dans cette histoire-là, plus des ordres d'ailleurs dans le contemporain que ça ne l'a été avant, puisque effectivement c'était l'inversion du pénis avant, donc dans nos représentations. Je disais sans arrêt, je repérais cette séparation sexe-reproduction qui permettait justement de symétriser les rôles sexuels en mettant de côté la reproduction. Et puis je me suis trouvée, moi qui n'étais pas du tout science-fiction à l'époque, face à Alien avec Sigourney Weaver, qui est la femme face à quelque chose qui n'est que la reproduction. Donc c'est vraiment au travers de la... Voilà. Donc par rapport à ta... Je m'éloigne de ta question. Donc j'ai travaillé sur ça en pensant qu'effectivement je me suis à un moment posé la question, mais est-ce que c'est moi... Est-ce que c'est le motif de l'initiation? Est-ce que c'est un motif qui serait inhérent à notre façon de penser le monde? Et puis je me suis rendu compte en allant aux États-Unis que non, les scénaristes, effectivement, travaillent à partir de cette trame initiatique. Ils ont ce livre de chevet qui s'appelle Joseph Campbell, qui est sur l'histoire des différents mythes que a rassemblé Joseph Campbell. Il en a une interprétation à lui, il a fait une synthèse, et que tout le monde va servir, y compris pour des choses qui ne sont pas de la science-fiction ou de blockbuster, comme par exemple Ally McBeal ou Urgence. Vous avez un personnage, vous allez suivre son initiation dans la vie professionnelle, dans sa vie affective, etc., au travers de cette trame initiatique avec des motifs. Alors ça, ils en sont, de la trame initiatique, ils en sont très, très, très conscients. Par ailleurs, ils ont une culture générale qui est très importante, à la fois une culture générale des mythes, mais par ailleurs également d'événements contemporains actuels. Dans le cinéma populaire américain, populaire j'y inclus donc les séries, qui sont plus ou moins considérées comme des séries de haute culture ou non, mais en tout cas on y intègre des événements du contemporain immédiat, c'est-à-dire par exemple l'affaire Roman, vous vous souvenez de ce médecin, enfin de ce faux médecin, ce type en France qui était étudiant en médecine ad vitam aeternam et qui a fait croire qu'il était médecin à l'OMS, qui a fini par tuer par toute sa famille, etc., quand il a été acculé à montrer qu'en fait il n'avait pas de boulot, il n'avait rien, qu'il n'avait pas pu rembourser l'argent qu'il avait emprunté à ses beaux-parents. Cette affaire-là, par exemple, a été immédiatement, au moment même où ça s'est su, réintégrée dans différents types de séries américaines ou de films américains, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Oui, mais si tu veux, en France, c'était des films. Ouais. Ça n'a pas été situé dans des séries. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, on a une espèce de forme qui est quand même issu d'un travail sur la mythologie. Ça ne veut pas dire que c'est... En même temps, ils font référence à des œuvres qu'ils font les uns les autres. Donc, si tu veux, il y a une conscience. En ce qui concerne Alien, on a donc le film inaugural, qui est quand même la chose venue d'un autre monde, qui date de 1951, si je ne... Et ensuite, on a le premier film de Ridley Scott, qui est 78-79. Ils gardent les droits, mais tous les scénarios vont être faits à partir des scénarios précédents. Donc, il y a un travail collectif également qui est fait, c'est-à-dire d'inversion, etc. Donc, il y a toute une part du travail que font les scénaristes qui est tout à fait conscient et qui intègre et qui métaphorise des relations qui existent, enfin, les relations hommes-femmes, la façon, par exemple, de concevoir les relations entre groupes culturels comme plus ou moins évoluées en fonction de leur capacité reproductrice, de leur taux de fertilité. Tout ça est métaphorisé de façon consciente. Maintenant, il y a des éléments. Je ne pense pas, par exemple, en ce qui concerne les excroissances osseuses, je ne suis pas sûre que ce soit des éléments qu'ils ont fait pour le faire, si tu veux. Bon, il y a des éléments qui, effectivement, je pense qui découlent plutôt de l'analyse que j'en ai faite que de celle qui serait consciemment mise en place. Mais oui, il y a toute une partie qui est vraiment de la construction métaphorique de choses qui concernent des relations, la réalité actuelle et en particulier la réalité relationnelle entre différents groupes culturels avec lesquels s'entrecroisent les relations hommes-femmes, les relations entre classes, etc.
Et espèces.
Tout à fait, et espèces, tout à fait. Mais je cherchais, parce que bon, je trouve qu'effectivement ça mériterait d'avoir, je suis désolée parce qu'effectivement si j'avais vu le film avant sur Haraway et de ce qu'elle dit, ça me semble effectivement complémentaire, mais ça requerrait vraiment un approfondissement. Elle se situe, enfin, c'est ce que je disais à Nathalie en arrivant, elle se situe à l'intérieur même de notre culture. Moi j'ai une perspective qui est une perspective comparative, donc c'est un petit peu difficile. Pouvoir faire le joint, il faudrait travailler un petit peu. C'est pas impossible du tout, au contraire, ça serait passionnant, mais je crois que c'est plus intéressant que vous réagissiez, vous.
Est-il des questions dans la salle ?
Ou des commentaires, ça peut être des commentaires, d'ailleurs.
Je vais essayer, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris des deux exposés. Enfin, effectivement, c'est deux univers différents. J'ai l'impression qu'à Haraway, on est plutôt dans effectivement, anthropologie, sociologie des sciences, où elle nous aide à voir comment les codes sont construits. Donc, c'est pour ça que déconstruction, j'avais l'impression que c'était l'inverse, qu'elle nous faisait un récit pour nous montrer de manière différente comment c'était construit. Mais bon, parce qu'effectivement, elle déconstruit, reconstruit. Et là, et vous, dans, il me semble, dans votre exposé, on est plutôt dans l'interprétation et la mise en écho des symboles. Donc, c'est pas du tout le même mode d'appréhension. Je sais pas.
Oui, c'est-à-dire qu'elle parle de, elle parle, si tu veux, elle parle, elle prend.
Vous êtes plutôt dans l'analyse symbolique, en fait.
Alors, symbolique, ou pas. C'est oui, enfin, si vous voulez, c'est oui.
La différence entre les deux.
Non, mais vous avez raison. Il y a une différence de perspective. Quand je parle de représentation, c'est pas des symboles, parce que des symboles, c'est des éléments partiels et parcellaires. Il y a une idée. Quand je parle d'idéologie, c'est qu'on croit vraiment, et Haraway aussi pense qu'il y a, il y a une évolution de l'espèce humaine. Je sais parce que je l'ai lu. Et surtout dans le manifeste Cyborg, le manifeste de oui. Dog Manifesto, elle est très claire là-dessus. Là, j'ai les citations de Haraway. Donc, si tu veux, vraiment, le manifeste Dog Manifesto est assez. Bon, de toute façon, elle prend. Nous croyons tous qu'il y a une évolution des espèces. Enfin, je veux dire, je ne suis pas créationniste, ne vous inquiétez pas, mais il n'y a pas que cette perspective évolutionniste. L'évolutionniste est aussi une façon de concevoir le monde. Nous, en tant qu'ethnologues, on sait que toutes les cultures ont ce qu'on appelle une cosmologie, c'est-à-dire une façon d'imaginer l'origine du monde, donc c'est le Big Bang, et la façon dont il fonctionne et la façon dont il va évoluer, éventuellement disparaître, ou au contraire se poursuivre. Donc ça, c'est vrai de toutes les cultures. Nous, on a posé que la nôtre était scientifique. Alors, elle se situe effectivement dans la déconstruction du discours scientifique. Et elle travaille effectivement, quand elle parle de layers, c'est-à-dire de différentes couches, elle essaye de montrer les différentes couches. Et le fait, là où c'est moins clair et elle en joue systématique, c'est pour ça que tu as raison de dire qu'elle est volontairement ambiguë, c'est qu'au niveau de son... Il y a des moments où elle passe de quelque chose qui est de l'analyse, comme ce que j'ai fait, à autre chose qui est d'utiliser les images qui sont fournies elles-mêmes par les faits. Moi, j'ai utilisé des images produites, construites, donc où il y a un travail derrière des scénaristes, tandis que là, il y a aussi un travail du National Geographic. Mais elle va en faire autre chose. Donc, elle va vraiment... elle passe de cette histoire de... Quand elle, par exemple, elle montre la photo d'une famille au zoo où il y a à la fois l'enfant... chimpanzé, l'enfant humain, et que ces gens-là, avec, entre guillemets, l'enfant, le pet, qui est chimpanzé, mais qui est dans le même statut apparent, en tout cas dans la forme de la relation qu'il a dans la photo. Et en même temps, ils vont aller au zoo pour voir les animaux. Donc et puis, à un moment donné, quand elle se fait accrocher des fils avec des waf, etc., elle joue sur le fait qu'elle-même, elle est layers, elle est elle-même, comme le gâteau qu'elle a présenté, différentes couches de choses qu'on ne peut pas attraper. Elle a une... Ben, si vous la lisez, elle a une langue qui est effectivement en couches.
Oui, non, mais c'est
d'accord.
Oui, absolument. Mais c'est ce que j'ai dit au début.
J'ai une langue beaucoup plus classique. Mais par contre... C'est pas une analyse symbolique. Enfin, je vous ai aussi donné des analyses symboliques quand je vous parle des excroissances osseuses, etc. Mais c'est oui, tout à fait. Moi, j'ai un discours de description classique. Effectivement, Haraway, pas du tout. Elle n'est pas classique du tout.
Moi,
ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante.
Non, mais c'est quelles sont les histoires qu'on raconte et pourquoi on raconte ces histoires-là à ce moment donné du temps de l'histoire. Pourquoi cette histoire arrive juste au moment de la décolonisation? Qu'est-ce que c'est ces histoires de nanas qui partent en Afrique et qui prennent des budgets, tu vois, qu'on finance? Elles partent en Afrique pour aller étudier les chimpanzés. Alors, il y a les unes qui apprennent les langages des signes aux chimpanzés, les autres qui renvoient les chimpanzés à l'état sauvage. Enfin, tu vois, ça n'arrête pas de trafiquer. Et ça, exactement au même moment... où les Belges partent du Congo et qu'il y a de la décolonisation dans l'air et qu'il y a la mise en place d'un capitalisme transnational qui va réorganiser ce qui compte comme nature. Donc, c'est quelles sont les histoires qui arrivent, à quel moment, pour qui et combien ça coûte.
Comme Adopi actuellement.
Ouais, pourquoi Adopi aujourd'hui,
c'est, ouais,
pour... Oui, mais c'est pas seulement le fric, c'est aussi le contrôle, je crois. Hein, d'office, moi, je crois qu'on parle beaucoup du fric parce que bon, il y a, c'est un aller-retour entre l'industrie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on peut faire, qu'on peut être à la fois lecteur et producteur, tu vois, ça déstabilise quand même beaucoup l'attitude consommatrice passive que l'on veut bien nous faire croire que nous avons, alors que même quand on regarde un très mauvais spectacle de TF1, on est extrêmement actif en tant qu'interprétant, me semble-t-il.
Oui, bon, par exemple, une analyse plus classique par rapport à cette histoire de décolonisation, ce serait effectivement de clarification de ce à quoi ce que ça pourrait signifier, c'est qu'à partir du moment où on n'avait plus accès aux humains de cette contrée africaine, on allait s'intéresser beaucoup plus aux animaux. Il y a toute une problématique, et là, parfois, elle ne va pas l'analyser, qui est que, oui, il y a une attitude des Occidentaux qui est parfois de vouloir sauver plutôt les animaux, c'est ce qu'elle dit aussi dans le Dog Manifesto, en son nom propre, plutôt que certains humains qui sont considérés comme moins évolués. Donc il y a aussi, on pourrait faire ça, elle ne se réduit pas, ce qu'elle a dit ne se réduit pas à ça. Mais effectivement, elle a raison de situer les choses. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait, ça que je n'avais pas remarqué, je dois dire, que ce soit pourquoi ce sont des femmes qui effectivement avaient vocation aller s'occuper des mammifères. Ça, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui aussi connaît bien Haraway et Bruno Latour, qui est Vinciane Després, explique combien les images de chimpanzés sont utilisées pour montrer les émotions. C'est-à-dire, ce sont des mammifères, ils sont du côté de l'émotionnel, hein, comme les femmes. Aussi, également ça. Alors que moi, je suis dans un univers où on va utiliser des insectes qui sont présentés comme justement émotionnels. Alors, eux, ils ne sont pas des mammifères, justement. Et là, on a, encore une fois, dans notre idéologie occidentale, mais qu'il y a des éléments qui sont partagés par d'autres cultures, cette idée que c'est grâce à la dépendance de l'enfant à sa mère que vont se développer des relations émotionnelles. Ce pourquoi les mammifères ont ce plus par rapport aux autres animaux. Mais avec cette idée que si on est trop émotionnel, à ce moment-là, on est plutôt sous évoluer. Et par contre, quand on devient plus du côté d'une intelligence sans affect, on devient plutôt du côté d'une intelligence dite collectiviste qui renvoie à ce qui s'est passé au niveau des nazis, qui étaient très performants au niveau technologique, au niveau d'une efficacité à vouloir tout contrôler dans la société, mais en retirant les affects, et qui du coup se retrouvaient plutôt dans une société de type ruche, insectoïde, etc. Et ça, dans les Star Wars, et notamment les premiers qui sont devenus les derniers, ou les derniers qui sont devenus, enfin, qui sont en fait les premiers, c'est très très bien montré, la figure de l'insecte par rapport à la figure du mammifère. Donc il y aurait des choses, qui, encore une fois, il faudrait vraiment travailler et faire sens de cette complémentarité de perspective, où il y a des choses qui se rejoindraient, puis d'autres choses qui ne seraient pas forcément, ne se rejoindraient pas forcément avec Haraway. Mais il y a des choses, c'est vrai que je trouve que cette idée que les femmes ont été envoyées à ce moment-là en particulier avec les singes, c'est intéressant.
Oui, et puis le singe qu'on appelle Han, mais que vraiment surnomme d'un prénom chinois, enfin, c'était mixte. Enfin, tu vois, mais
bah, pour moi, ça ne fait pas chinois du
tout. Enfin, asiate, non pas Han, mais oui, mais c'est une connotation asiatique. Ah mais oui, ah mais non, mais c'est de là dont on parle, c'est de là d'où on parle. Enfin, c'est évidemment pas, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de réel, de vrai, de non, c'est totalement raciste comme position.
Oui,
non,
mais pour moi il y a un problème, enfin il y a un truc qui me chiffonne dans tout ça, même quand elle parle. Quand alors je ne sais pas à quel degré elle aborde ça, quand elle évoque l'image du singe avec l'enfant qui apprend le premier mot à l'enfant par le langage des signes, et elle dit que l'animal animalise l'enfant. C'est sa lecture aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc
non,
qui, pour
non,
moi, là, me chiffonne.
Non, non, ce qu'elle dit.
L'enfant humanise, enfin, le singe, maman à ce petit humain qui est en train d'être humanisé par un animal est en train d'ensauvager les animaux qui avaient été domestiqués de fait.
Et du coup, c'est vrai que ça, c'est une complémentarité qui est intéressante, tu vois.
C'est des trafics qui sont assez étonnants.
La mère, elle est en train de remettre, d'essayer de réapprendre à des animaux qui n'ont jamais vécu dans la nature, qui sont accrochés à elle comme des petits enfants humains, elle va les remettre dans la nature, entre guillemets.
Ok, tout ça pour dire que ce serait bien qu'on lise le manifeste Cyborg, enfin j'y suis là-dedans, voilà, et qu'on va peut-être s'arrêter là, je suis un peu éclatée. Merci d'être venu, c'est la dernière édition du séminaire.
Oui, si vous voulez juste un tout petit point de détail sur, je ne sais plus dans quel alien, où la grossesse et l'accouchement se fait au niveau thoracique. Ce qui est assez étrange d'une certaine façon.
Tous les aliens.
Oui. Alors, est-ce qu'il faut y voir, dans le cadre d'une dimension symbolique, est-ce qu'il faut y voir quelque chose qui est dans la partie haute du corps, qui serait se faisant moins viscéral, et donc plus du côté de moins du côté de l'animalité, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut y voir ça ou pas?
Vous savez, je pense qu'on peut... À partir du moment où vous l'avez vu, il n'y a pas de raison... Enfin, ce sont des supports à penser. C'est pour ça que je parle de mythes au sens fort du terme, hein, pas des mythes au sens journalistique plat, qui seraient des faussetés, des mensonges. C'est plutôt le fait de maintenir une indétermination, et c'est d'ailleurs le discours de Haraway Barret, de maintenir une indétermination pour que chacun reprenne à son compte la façon dont vous y avez vu ça, effectivement, en plus, comme j'ai beaucoup insisté sur le côté squelette. Mais dans les faits, il y a effectivement des travaux qui continuent à être faits sur comment on pourrait faire pour que les hommes puissent enfanter. Non. Le problème, c'est le placenta. Le placenta, c'est un organe qui permet, c'est littéralement un organe au sens propre, même s'il est temporaire, qui va permettre les échanges d'oxygène entre la mère et l'enfant, puisque le sang, ça sert à ça. Donc les passages de sang, c'est de pouvoir faire circuler l'oxygène qui est absorbé par la mère et le faire passer par les enfants sans que... sans que soit détruite la barrière entre eux, puisqu'effectivement, ces deux êtres dépendants à un niveau, mais qui doivent rester indépendants à un autre niveau. Et donc, c'est très compliqué. Hein. Il y a un des endroits qui aurait été idéal, c'est les testicules, mais c'est pas... Vous pouvez imaginer que c'est... Parce qu'évidemment, si c'est dans le ventre, ça ferait exploser le monsieur. Donc, je pense qu'il y a là encore un travail qui est fait, parce que c'est assez logique que si c'est un besoin d'oxygène pour faire développer un enfant, ça se passe au niveau, si vous voulez, thoracique. Maintenant, il peut y avoir d'autres éléments que je n'avais pas pensé. Donc, comme vous m'avez posé la question, ça va rentrer dans l'armoire. Mais vous aviez une idée, ça vous a fait penser à...
Non, c'était l'idée qu'on quittait un peu l'animalité en étant dans les parties hautes du corps. Et que plus on descend, plus on est du côté du viscéral, peut-être.
Il y a quelque chose là, c'est-à-dire qu'effectivement, il est clair que quand c'est quand par exemple à la fin, si vous voulez, ce qu'on a, c'est que Sigourney Weaver devient de plus en plus détachée de la reproduction naturelle. Elle a d'abord, elle est en passe de devenir une femme potentiellement fertile. Elle est inséminée, certes par la cage thoracique, mais elle est inséminée. Ensuite, pour accoucher, elle n'accouche pas comme on accouche normalement, mais par césarienne thoracique. Et puis ensuite, on la voit comme une femme qui est effectivement, elle a accouché, maintenant elle peut passer à autre chose. Et notamment, on a ce moment. Par contre, la pauvre animale qui, elle, est détachée de la reproduction naturelle avec son ootèque, avec le fait qu'elle a besoin d'un autre corps pour engendrer, donc elle est vraiment style parasitaire. Elle, la pauvre, elle est en train d'assimiler la reproduction, entre guillemets, naturelle des humains. C'est-à-dire qu'elle, elle va prendre en charge et du coup, elle s'animalise à la mode des mammifères. Donc, c'est plutôt la distinction, encore une fois, entre mammifères, dont nous sommes, mais nous nous considérons comme au sommet des mammifères, donc avec une intelligence supérieure et du coup, capable de créer des prothèses qui nous permettent de nous détacher un peu plus de l'animalité dont on s'est extirpé. Mais attention, nous disent les auteurs de science-fiction sans arrêt, ça depuis Wells, c'est la référence, c'est évidemment pas Verne, mais c'est Wells. Si on va trop vers quelque chose qui est complètement désincarné, à ce moment-là, on ne se détache pas de l'animalité, mais on est du côté d'une animalité insectoïde, sans affect. Et là, on perd son âme, c'est l'idée. Donc il y a bien quelque chose au niveau de différents types d'animalité. Par ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais pas mal de cycles de parasites passent, que ce soit certains ténia passent par les poumons avant de pouvoir aller dans d'autres organes ou éventuellement d'être éliminés. Donc c'est une. Voilà. Mais je garde votre question qui est très intéressante.
D'autres questions ?
Enfin, dans les mythologies, dans les représentations chez les enfants, hein, cette idée selon laquelle les bébés se font aussi par, par l'ingestion d'une graine. Hein. Mmh. Freud a évoqué ça. Hein. Et puis c'est quelque chose qui se retrouve en permanence. Hein. C'était un,
vous voulez dire la fellation inséminante de la mutante.
Oui, oui. Oui.
Mais là, c'est encore une fois, c'est plutôt lié à ce que vous disiez avant, c'est le fait que c'est par le haut du corps que ça se passe. Et donc, ça
oui,
nous.
Il y a un déplacement, effectivement.
Il y a un déplacement. Et un déplacement, voulu. Hein.
Là aussi, je crois, chez les enfants, c'est incapacité de. Ils savent certainement où ça se passe, seulement c'est un impossible à vivre et à dire, et c'est déplacé vers le haut.
Mais je ne pense pas que ce soit pour les mêmes raisons dans le film de science-fiction. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand j'analysais ces films et sans montrer le support de l'image, je me souviens à plusieurs reprises, des messieurs m'ont dit « Mais non, dans Alien, c'est son ventre qui explose. » D'ailleurs, Annie, quand j'ai apporté ça, Annie l'a mis tout de suite sur son ventre. Donc, c'était pas évident. Non, c'était sur le... Donc c'est intéressant de voir que, par contre, c'est tout à fait voulu que ce soit dans la cage thoracique très précisément. Donc c'est pas parce que les gens évidemment ne savent pas comment on fait des enfants, ce qui concerne les scénaristes, mais c'est un déplacement qui induit le fait que du coup on va penser autrement le processus de reproduction, et notamment par le fait qu'on a à la fois des messieurs et des dames. Si c'est dans le haut du corps, à ce moment-là, ça peut être asexué. Donc c'est le côté asexué, même y compris quand c'est, je l'appelle fellation inséminante, parce qu'évidemment ça paraît tellement ça, mais il faut bien dire que c'est censé être autre chose qu'une sexualité habituelle, en tout cas. Donc c'est un processus de déconstruction.
Mmh. Oui, non, je suis d'accord.
Et est-ce que toi, tu pourrais nous dire par rapport à une analyse trans d'aliens, enfin des éléments effectivement que tu pourrais ajouter.
Peut-être des gens dans la salle aussi qui ont cette analyse-là. Enfin, moi, je vois des trans partout. C'est une déformation professionnelle, mais dans le cadre d'aliens, ce qui est le principal truc, c'est qu'effectivement cette histoire de prison où je comprends pas bien où se situe le genre. On définit dès le départ que la prison elle est peuplée uniquement d'hommes. Et on dit par la suite que c'est des hommes qui sont X, Y, Y. Alors, est-ce qu'on mentionne que je dirais pas la masculinité, mais le fait d'être mâle se situe dans le Y. Tu vois, déjà, les questions se posent dans ce... C'est quoi? C'est Alien 3, peut-être, celui-là?
Oui.
Il faudrait que je vois toute la quadrilogie. Il y a plein de choses, en fait. Mais comme je te le dis, j'en vois partout, des trans de n'importe où, même. Mais d'ailleurs ici aussi. Mais attends, mais si j'y pense, il faudrait que ce soit plus prégnant. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je sais pas, Gaëlle, Kira, si vous aviez des lectures.
Avec ce que j'ai montré, il n'y a pas suffisamment d'éléments. Mais si vous connaissez, enfin si vous les avez en tête, ça serait.
Ouais. Bah, on fait ça demain.
Ah, moi je suis partante, hein. Ceci, ça m'intéresserait beaucoup.
Mais même sur l'enfant final, enfin l'enfant qui devient bipède, qui est blanc, qui ressemble aussi à un grand primate, ouais. Qui pour moi est aussi autant asexué que devient Sigourney Weaver. Parce que pour moi, à partir du moment où elle est inséminée par l'alien en question, est-ce qu'elle est encore une femme? Est-ce qu'on la définit encore comme une femme? Ça devient un produit. Ouais, c'est un produit technologique.
Elle est,
aussi,
elle est tournée du côté de l'animité. Après, il y a toute la discussion, et là, c'est pareil, il y a des interprétations différentes. Moi, je suis désolée, mais la figure de la féminité en Afrique de l'Ouest, c'est pas la petite femme éthérée, gna gna gna. Donc, il y a bien une subdivision homme-femme en Afrique de l'Ouest, mais il n'empêche que c'est des femmes plutôt fortes. Et moi, quand je vois Sigourney Weaver, une fois qu'elle a accouché, qui est super forte, c'est plutôt mon identification féminine hétéro qui est comme ça. Je veux dire, je ne la vois pas masculine du tout.
Ouais, mais ma lecture France, elle se situe.
Mais il y en a d'autres qui la voient, qui me disent, mais si, elle est maintenant, elle est masculine. Donc.
Non, mais après, de façon manifeste, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle soit super sexy, que ce soit considérée comme un homme ou une femme. Mais au-delà de ça, moi, la oui, lecture France que
et
j'ai,
en même temps, elle est super, tu vois, elle est forte. Je veux dire, c'est.
Mais ma lecture trans ne se situe pas sur la force ou l'endurance, elle se situe plus sur le fait qu'il y ait une intervention technologique dedans, enfin une mutation technologique. Oui. Est-ce que des trans qui, par le biais d'hormones, deviennent un produit technologique ou pas? Après, on peut parler de tuning corporel.
Tu veux dire le fait qu'elle est issue d'une hybridité. Alors, en plus, il y a tout un truc enchâssé, parce que c'est par le fait qu'elle avait à l'intérieur d'elle un autre type de génome, on en revient, enfin, on pourrait faire plein de parallèles avec l'histoire de d'Haraway. Donc, elle avait des gènes différents, qu'elle a été transformée. Donc, ça s'est fait pas par un processus technologique. Mais c'est la technologie qui a permis que s'exprime ce que quelque chose qui n'était pas technologique a permis de faire. Donc, tu vois, tu as un enchâssement de différentes choses. Et en disant ça, j'ai pensé à autre chose. Désolée, c'est parce que ça doit être. Il est tard.
On a faim.
Je retrouverai plus tard.
Non, mais après, c'est. Je sais pas, on peut en parler ensemble, tu vois.
À un moment, donc c'est à réfléchir, mais à un moment donné, Sigourney Weaver, elle arrive dans le laboratoire et il y a un clone d'elle-même, donc un produit parmi tant d'autres, qui est mieux réussi que les autres parce qu'il est quand même viable, mais qui est moins réussi qu'elle et qui est dans une hybridation. Et ce clone-là lui dit, on lui demande,
s'il te plaît, tue-moi.
Et ça pourrait être intéressant par rapport à une transition loupée ou quelque chose de l'obligation du passing ou du produit technologique, mais en lien avec ça. Je sais pas, on vient juste de se faire la remarque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
si,
ouais. Mais je pense, par exemple, une lecture d'Haraway par rapport à ce que je disais aussi sur, je m'excuse, hein, c'est une incise, mais le fait d'être transformé par le contenu des gènes qui sont à l'intérieur, ça serait aussi une lecture possible d'Haraway, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas seulement, elle essaie de les prothèses, ça fait partie de la nature. Enfin, je veux dire, si on est...
Oui, mais enfin, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, elle parle que de rhétorique, c'est-à-dire quel langage on utilise, quelles images on utilise, quelles métaphores on utilise, comment on les met les unes après les autres, pourquoi elles arrivent à ce moment-là, qui les raconte, combien ça coûte, qui paye pour ça. Tu vois, c'est plus que le contenu, on s'en fout du contenu. Le problème, c'est ce n'est qu'une analyse de surface, et c'est la notion de surface et de profondeur n'existe. Enfin, tu vois. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe sur, ok, j'ai des surfaces, elles ont des histoires, quelles sont les histoires que ça raconte, comment on en est arrivé là, et comment, tu vois. Voilà.
Non, mais il y a des moments, si tu veux, quand elle parle à d'autres moments du fait que, en ce qui concerne, en particulier, donc elle a écrit un petit livre, mais qui n'est pas traduit, qui s'appelle Le Dog Manifesto. Elle dit bien le fait d'avoir vécu en même temps que les animaux, on partage de la salive, et il y a des échanges qui sont pas. Nous avons pris l'habitude de penser les échanges génétiques entre nous en termes les ascendants, les descendants. Il n'y aurait jamais de transmission latérale entre organismes qui ne sont pas de même espèce de matériel génétique. Manque de bol, ça existe vraiment. C'est tout le temps le cas. Et c'est ce qui permet justement la grippe porcine, c'est un des éléments. Il y a du matériel génétique qui transite, en particulier par les bactéries intestinales qui transforment ça. Et c'est là où je rejoignais l'histoire des trans. Donc justement, quand je disais qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a été transformée, et donc effectivement, il y a les différentes étapes au travers desquelles elle a été transformée aussi par la technologie petit à petit avec ses modifications. Je trouve ça assez joli. Mais à l'heure actuelle, il y a également le fait qu'on a découvert que les femmes qui accouchaient de garçons avaient à l'intérieur de leurs propres cellules de l'ADN de masculin. Hein. C'est-à-dire que ça, ça existe tout le temps. Non, mais ça, c'est à fait. On l'appelle. Les... Non, c'est biologique. L'ADN masculin, moi, quand tu as des chromosomes, des parties de chromosomes Y qui sont dans les cellules féminines. Et ça s'appelle des chimères. On a des états mosaïques, c'est assez fréquent. Que, effectivement, donc, on a des cellules et il arrive assez fréquemment que des personnes aient un certain nombre de cellules qui n'ont pas le même contenu que l'ensemble, la majorité des cellules qu'ils portent. Et par ailleurs, donc, on a découvert effectivement qu'il y avait du matériel génétique qui était passé des enfants vers la mère, mais on l'a découvert grâce à la faveur d'avoir des morceaux de chromosomes Y. C'est ça qui a permis de faire. Et donc, si tu veux, je termine.
C'est féminin plutôt que féminin, parce que féminin, c'est tout de suite, ça essentialise l'histoire. C'est causé féminin.
Si tu veux.
Mais non, c'est
vachement
important, je pense. Hein. Parce que
là,
du coup, ça.
Oui, bon, écoute, du coup, moi, j'ai perdu le fil. Je sais pas. Mais donc, c'était aussi qu'il y avait à la fois la technologie, mais aussi ce que permet de découvrir la technologie, qui est même au sein même de ce qui se passe, il y a des choses qui passaient inaperçues. Et donc, il y a eu deux hypothèses à partir de ça qui ont été faites. C'est que les médecins ont proposé comme hypothèse que c'était peut-être pour ça que les femmes pouvaient avoir être au niveau des protégées au niveau cardiovasculaire. Une hypothèse, hein, il n'y a pas de preuve par rapport à ça. Et au contraire, l'autre hypothèse, mais encore une fois, ni l'une ni l'autre ne peuvent être confirmées comme ça, c'est le fait que les femmes développent beaucoup plus de maladies auto-immunitaires, c'est-à-dire qu'une partie de leur système immunitaire va détruire une partie de leurs cellules. Et est-ce que c'était lié au fait que quand elles ont des enfants, il y a du matériel génétique qui ne leur est pas propre, qui passe dans leurs cellules? Mais on n'a pas de réponse là-dessus. Donc il y a bien aussi, même indépendamment de l'usage de la technologie, des états qu'on appelle les états chimériques. Et qui sont en fait beaucoup plus courants qu'on ne le pense.
Et qui, tu m'en prendras, mais qui sont aussi, qui permettent aussi de.
Au sens de hybride.
Bien sûr, et qui permettent aussi de sous-estimer le nombre d'intersexes recensés, par exemple. Les cas de mosaïque sont assez fréquents, ouais. Notamment c'est en fonction de là où on chope ta quantité, ouais, de cellules, bah, il se trouve que ça reste homogène ou ça ne l'est pas à un autre endroit. L'autre truc auquel je pensais avant de m'effondrer, c'était la période transitoire par rapport à la question de la larve et nanana. Je pensais à ça par rapport à l'histoire du passing. C'est sûr qu'on fait moins bien son passing dans un cocon, mais là aussi, pour le coup, je trouve qu'il y a un parallèle avec les trans, sur une espèce de rite initiatique de passage.
Ah non, c'est intéressant. Oui, parce que là, enfin, oui, je vois bien par rapport au fait d'avoir cette.
Les chimères sont beaucoup plus fréquentes qu'on le dit, parce que les mitochondries dans toutes cellules sont déjà des cellules des bactéries qui auraient colonisé les cellules. Historiquement, peut-être la rétine elle-même est faite d'un certain nombre de corps étrangers également, qui seraient aussi peut-être déjà.
Partie la plus importante de notre génome n'est pas codant. Vous savez que c'est un très très faible partie qui code. Et dans une grande partie de notre génome est d'origine virale. Et par ailleurs, et en ce qui concerne les mitochondries, maintenant tout le monde sait que les mitochondries sont transmises uniquement par les mères. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut tracer les lignées maternelles. Donc on est de toute façon.
Ok.
Ah ben, je vous conseille de. Ouais, comme des. Ouais. Et en même temps, il les cultive comme des.
On pourrait aussi faire une lecture trans de Matrix. Bref. On va peut-être s'arrêter là. Et je vous remercie. C'est la dernière séance du séminaire.
Merci. Mais vous, on a oublié de vous remercier de nous avoir invités.
Non, bah, c'est pas grave. Annie, tu veux peut-être dire un mot pour.
À la saison prochaine, et peut-être, on est en train de travailler, réfléchir à comment on va prolonger ces deux saisons sur les questions du genre. On va rentrer aussi dans le social du genre à travers le travail. On va explorer aussi tout ce qui concerne le travail, le monde du travail, en invitant beaucoup, beaucoup de monde pour avoir beaucoup de points de vue différents. Voilà, c'est une piste, mais ça va certainement s'enrichir par d'autres questions autour de ça. Merci à vous tous d'avoir été fidèles. C'est vrai qu'on a été parfois plus nombreux, parfois moins nombreux, selon les questions. Mais en tous les cas, je remercie à toutes les personnes qui ont suivi ce cycle, cette saison, et à nos invités. Merci aussi à toi, Vincent.
Ils ne veulent plus partir.